RCF.
Je pense, donc j'agis. Pauline de Torsiac.
C'est la dernière ligne droite avant Pâques. En célébrant le dimanche des Rameaux, les chrétiens sont entrés hier dans la Semaine Sainte. Elle s'achèvera la nuit de Pâques avec la résurrection du Christ. Les chrétiens célèbrent cette semaine le cœur de leur foi. Une semaine pour se souvenir des derniers jours de la vie terrestre de Jésus, des Rameaux au Triduum Pascal au fil des célébrations. Les fidèles entrent dans le mystère de la Passion du Christ en s'appuyant sur des traditions, des rituels. Mais pourquoi ces sept jours sont-ils si importants pour les chrétiens? Comment s'articulent les célébrations liturgiques de la Semaine Sainte? Quels en sont les rites et symboles? Que signifient-ils? Entre dévotion et tradition, comment s'exprime la piété populaire pendant la Semaine Sainte? On en parle dans un instant avec nos trois invités. Soyez également les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que représente pour vous cette semaine qui commémore le cœur de la foi chrétienne? Comment est-ce que vous vous préparez tout simplement à vivre le Triduum Pascal? Ces célébrations ont-elles pour vous un sens tout particulier? Quels sont les rites et traditions qui sont importants pour vous pour participer? Vous pouvez laisser vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Vous pouvez également nous appeler au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour parler du sens de la Semaine Sainte, trois invités. Frère Philippe Verdun, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes dominicain, vous faites partie des dominicains de Lille, du couvent de Lille, dominicains qui sont à l'origine de nombreuses propositions, dont carême dans la ville ou prier dans la ville. On remercie d'ailleurs nos confrères de RCF Lille qui vous accueillent et qui permettent ce matin d'assurer le duplex. Bernard Berthaud, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, vous êtes spécialiste d'art liturgique, vous êtes le conservateur du musée d'art religieux de Fourvière. Vous allez nous expliquer un petit peu comment s'inscrit cette semaine dans l'histoire. Et puis Père Maximilien de la Martinière, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes curé de paroisse dans les Yvelines, vous êtes l'auteur du livre « La piété populaire, une chance pour l'évangélisation ». C'est aux éditions Mediapol. On verra de quelle manière justement cette piété populaire se vit à l'occasion de cette Semaine Sainte. Mais frère Philippe Verdun, pour commencer, on l'a dit, hein, les chrétiens sont entrés hier dans la Semaine Sainte. C'est la dernière partie du carême. Comment s'inscrit peut-être pour commencer cette Semaine Sainte dans le calendrier liturgique, puisque c'est un petit peu le cœur de ce calendrier liturgique?
Alors effectivement, comme vous l'avez dit, hein, c'est l'aboutissement des célébrations communes des chrétiens tout au long de l'année. Toutes les fêtes qu'on célèbre, hein, Noël, la Toussaint, l'Ascension et a fortiori Pâques, ont pour but de sanctifier le temps. Donc les fêtes sont distribuées tout au long de l'année pour multiplier les occasions, y compris les fêtes de saints d'ailleurs, hein, pour multiplier les occasions qu'on a de communier avec le Christ dans la dimension pas simplement spatiale, comme quand on va dans une église pour prier, mais aussi dans la dimension temporelle. Vous savez, c'est un des credos du pape François, c'est que pour lui, le temps est plus important que l'espace. Comment vivre avec le Christ qui est mort il y a 2000 ans? Eh bien, en fait, il faut cheminer avec lui, et c'est comme vous l'avez dit, cette semaine, on chemine avec le Christ pendant qu'il monte à Jérusalem pour donner sa vie par amour pour nous. Et donc, en fait, on accompagne le Christ sur le calendrier que nous donnent les évangiles. Donc Jésus est monté à Jérusalem, on connaît un peu le contexte, hein, qui est très tendu. C'était toujours tendu, pour autant qu'on le sache, à Jérusalem au moment de la grande fête de la Pâque, où les Juifs de la diaspora, tout autour du pourtour méditerranéen, remontaient à Jérusalem. Donc les familles, les cousins, les cousinades se retrouvaient, on faisait des fêtes, mais il y avait évidemment la ville probablement la population de la ville, la petite ville de Jérusalem, était multipliée peut-être par 10 ou plus. Donc il y avait des gens qui campaient partout. Évidemment, il y avait des voleurs à la tire, il y avait tout les gens qui apportaient des moutons pour sacrifier le mouton la nuit de Pâques en souvenir de la traversée de la mer Rouge, la libération hein, du peuple juif de la servitude en Égypte. Et donc c'est ce moment qui est un peu crépitant, et c'est ce moment que choisit le Christ pour monter à Jérusalem, alors qui sait qu'on veut l'arrêter. Hein. On a beaucoup d'indices dans l'évangile qui nous disent que les grands prêtres voulaient mettre la main sur Jésus pour l'arrêter. D'ailleurs, l'évangile d'aujourd'hui raconte que la résurrection de Lazare a été un point un peu paroxystique de basculement. On peut pas laisser quelqu'un ressusciter les morts et manifester donc sa souveraineté, alors que c'est nous qui gérons le culte. Hein. Il va nous faire, pour faire court, il va nous faire concurrence. Donc le plan est ourdi pour le mettre à mort.
Alors justement, on va reparler peut-être de ce point de départ, en quelque sorte, cette entrée de Jésus à Jérusalem, une entrée remarquée puisqu'il est accueilli par une foule importante, une foule qui agite des branches de palmiers. Jésus était très populaire.
Jésus était très populaire, tout le monde avait entendu parler de lui, il a fait quand même beaucoup de miracles, et de toute façon on attendait le Messie, on était arrivé à une espèce de point paroxystique, celui qui allait libérer, hein, c'est ce que diront les disciples d'Emmaüs après la résurrection, celui qui allait nous libérer de l'asservissement romain. Donc il y a cette attente, et le Christ multiplie les signes messianiques, il est bien celui qui était annoncé depuis des centaines d'années, hein, le peuple juif attendait depuis des centaines d'années le libérateur, le Messie, celui qui est le nouveau David. Et c'est bien ainsi que on l'appelle quand il rentre à Jérusalem, un peu comme le roi David avait accompagné l'entrée de l'arche en dansant devant l'arche dans sa capitale qu'il avait choisie. Donc c'est un peu la fondation de Jérusalem, cette entrée de l'arche dans Jérusalem avec le roi David. C'était 1000 ans auparavant, un peu cette reconnaissance de Jérusalem comme la terre où le Seigneur réside et la capitale. Et donc Jésus fait pareil, il rentre sur un petit âne, là aussi donc renouvelant une prophétie hein, de prophètes plus récents. Et effectivement, les gens agitent les palmes. Alors là où ça va un peu basculer, donc il y a tout le monde est un peu tendu, hein, tout ce qui s'occupe de la sécurité et de autour du temple est un peu tendu. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, on a une notation, c'est que dans l'excitation, les enfants, et notamment les adolescents sans doute, continuent à monter vers le temple. Donc ils montent, ils rentrent dans le temple avec des palmes et ils font un espèce de carnaval. Hosanna au Christ au fils de David. Alors on agite des palmes, c'est un peu le charivari, comme dirait le pape François. Ils ont mis un peu le bazar dans les églises. Et ce que le pape François, il y a 6 ans, souhaitait inviter les jeunes des GMJ à faire. Alors il faut entendre ça comme un redéploiement de vie, hein, pas mettre le bazar pour le bazar, pas casser les chaises comme dans les concerts de Johnny Hallyday, mais manifester la vie surabondante hein, de Dieu. Et là, c'est le scandale, parce qu'on est dans le temple. Et dans le temple, on fait pas n'importe quoi. La liturgie, ça doit être réglé. Et donc, cette espèce de ces gamins qui sont partout, qui font le bazar dans le temple en agitant des palmes, eh ben, ça fait un scandale, c'est le blasphème.
Alors, je vous l'avais dit, hein, Jésus est sur un âne. Bernard Berthaud, c'est vrai que c'est aussi un peu étonnant de voir le Fils de Dieu qui se balade de manière aussi simple sur un petit âne.
Oui et non, parce que sous l'Antiquité, la personne qui est montée sur un animal, le soldat est monté sur un cheval, et Jésus n'allait pas monter sur un cheval, et il va monter sur un âne parce que l'âne, c'est le symbole, c'est le signe plus qu'un symbole, le signe de la fidélité, c'est le signe de la douceur, mais en même temps, ça propulse le personnage en dessus des autres pour qu'on le voit, en fait. Hein. Et c'est bien ce qu'ont compris ensuite les chrétiens paléo-chrétiens, et au Moyen-Âge, où on va renouveler ce geste, si vous voulez, et encore aujourd'hui en Allemagne du Sud, hein, où le prêtre, le jour des rameaux, est juché sur un âne, que ce soit un âne en bois, c'est souvent le cas dans le Tyrol, ou un animal en chair et en os, un âne en chair et en os, parce que les chrétiens, de toute manière, et très tôt d'ailleurs, vont mimer en quelque sorte l'évangile pour mieux s'en pénétrer. C'est quelque chose de très important et qui est resté très présent dans les mentalités catholiques, hein, justement de s'approprier d'une certaine manière l'évangile en mimant, mais ce mime n'est pas un mime qui serait blasphématoire, non, c'est un mime de prière, hein, c'est une manière de prier avec son corps.
Père Maximilien de la Martinière, justement, cette fête des rameaux, c'est une fête très populaire. C'est l'occasion de faire des processions. On bénit les rameaux. Vous le disiez, c'est une manière de vivre la foi. Comment comprendre finalement cette tradition, cette piété populaire particulière sur ce jour-là?
Alors peut-être d'abord une petite précision sur comment fonctionne la piété populaire. Elle s'ajuste par rapport à la liturgie. On pourrait dire que le peuple de Dieu participe au culte dans la liturgie officielle de l'Église et puis prolonge sa relation avec Dieu en dehors de la liturgie en développant sa piété, donc une façon de prier particulière qui est la piété populaire. Donc la piété populaire, elle prend l'espace avant et après la liturgie officielle de l'Église. Et donc dans le cadre particulier de la Semaine Sainte, là, donc, on commençait par les rameaux, mais on va développer les différentes étapes de la Semaine Sainte. La piété populaire, elle est à la fois très nourrie, puisqu'on va enchaîner les célébrations liturgiques, et en même temps, elle n'a pas beaucoup d'espace, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent de manière un peu figée par la liturgie. Donc voilà. Donc, pour ce qui est propre aux rameaux, la célébration des rameaux, il y a vraiment la messe des rameaux qui est bien codifiée et auquel participe le peuple. Et dans le cadre de cette célébration liturgique, il y a cet objet, puisque la piété populaire, elle aime prendre les objets que lui propose la liturgie pour son propre déroulement, afin de les utiliser ensuite pour elle-même. Donc l'objet effectivement phare du dimanche des rameaux, c'est ce morceau, ce buis, cette palme, enfin ce rameau qui va pouvoir être brin d'olivier, repris, évidemment, qui est donné lors de la célébration, mais qui va être utilisé ensuite dans le culte personnel, familial, à la maison, puisque vous savez que les gens le ramènent pour le déposer et le mettre sur le crucifix ou ailleurs à la maison, pour tout au long de l'année, prolonger quelque chose de ce qui se joue dans la célébration des rameaux. Et évidemment, pour que ça marche, je mets des guillemets, mais c'est bien ça que ça veut dire, pour que ça marche, il faut que le rameau soit béni. On n'a pas n'importe quel brin d'olivier dans sa maison. On en met un qui a été béni lors de la messe des rameaux. Donc je peux témoigner comme curé, puisque j'ai célébré hier la messe des rameaux, que non seulement c'est la messe où il y a le plus de monde dans l'année, mais c'est aussi la messe où les gens sont le plus à l'heure, à la messe, puisque la célébration commence par la bénédiction des rameaux. Hein, et donc si finalement on arrive et qu'on a raté la bénédiction des rameaux, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça devait se passer.
C'est presque plus important que Pâques ou Noël, cette célébration des rameaux. C'est vrai, vous l'avez dit, il y a souvent beaucoup de monde, c'est très important pour les fidèles. Voilà, comment comprendre cet engouement pour ce jour-là?
Je pense que c'est justement parce qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à ramener, un objet à toucher. La piété populaire, elle est très sensible à l'expression physique, le toucher, les gestes, les objets, la matière. Et donc, on sort de cette messe et on ramène quelque chose chez soi, qu'on investit d'un sens particulier et qu'on va pouvoir garder. Puis il y a une forme de tradition qui se transmet. Quand on était petit, on voyait qu'à la maison, la grand-mère, elle remettait tous les ans un brin d'olivier sur le crucifix. Et donc, on reporte quelque chose qui a été fait, même si on ne sait pas très bien ce que ça signifie. Hein, et donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là. Mais on peut dire aussi que la messe de Noël est très... La veillée de Noël, la nuit de Noël, hein, la messe de la nuit, est très, très demandée aussi. Parce que, bah, pour une autre raison, c'est associé vraiment à l'idée de la fête de famille, la fête des enfants, etc. Donc, au-delà même, vous voyez, du sens spirituel qui se joue dans la célébration, quelle qu'elle soit, liturgique, la mort, la résurrection du Christ, l'entrée à Jérusalem, la naissance de Jésus, il y a quelque chose qui rejoint le quotidien de la personne qui vient à ces célébrations. Et dans le cadre des rameaux, eh bien, c'est un besoin d'être béni ou que Dieu soit présent d'une manière ou d'une autre dans la maison. Et l'objet du rameau sert pour cela.
Une forme d'incarnation. Bernard Berthaud ?
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Les fidèles veulent protéger leur maison par le brin des rameaux. Et il faut aussi bien penser, liturgiquement, que ces rameaux qui sont enlevés ensuite au début du carême vont être brûlés, et c'est au départ, maintenant je ne pense plus que ça se fasse partout, mais au départ c'est la cendre que l'on reçoit sur le front le mercredi des cendres, c'est la cendre des rameaux. En tous les cas, ça se faisait encore il y a peu à Rome, justement pour bien remettre ce petit végétal dans un sens liturgique, hein, pour rattraper, si vous voulez, parce que il y a quand même toujours eu une sorte de tension entre la liturgie de l'Église, célébrée par les ecclésiastiques, par le clergé, et la dévotion populaire ou la dévotion privée. Moi, je préfère le mot privé parce qu'aujourd'hui, le mot populaire, ça a un petit côté négatif. Hein. Donc, cette dévotion privée, justement, comme disait très bien M. de la Martinière, est privée. Et du coup, elle vit pour elle-même. Et le clergé a toujours eu la volonté de rattraper cette dévotion populaire pour qu'elle ne tombe pas dans la superstition, ce qui est un risque.
Ce dimanche des rameaux, très important pour les fidèles. Est-ce que cette pratique, elle a toujours existé,
Elle a existé depuis l'époque paléochrétienne. Vous savez que l'église paléochrétienne était une église processionnelle. On processionnait, même avant la paix de l'église, hein, processionnait à Rome d'une église à une autre. On faisait les fameuses stations. Et on a des témoignages du 4e-5e siècle où l'on sait que ce dimanche avant Pâques, eh bien, c'était un dimanche de joie, d'ailleurs. C'était en quelque sorte la fin du carême. Hein. On s'apprêtait à vivre la Semaine Sainte. Et c'était une manière de manifester un peu avant aussi la joie, la royauté du Christ, hein, la royauté sociale du Christ. Hein. Et c'est évidemment un moment très fort et qui était célébré très tôt. Au niveau du peuple de Dieu qui fait Église.
Je pense, donc j'agis. Pauline de Torsiac.
Les chrétiens sont entrés hier dans la Semaine Sainte, une semaine de célébration qui retrace les derniers jours de Jésus, son arrivée à Jérusalem, on vient d'en parler, son dernier repas, son arrestation, puis sa mort sur la croix et enfin sa résurrection pendant la nuit de Pâques. La liturgie propose de nombreuses célébrations qui permettent aux croyants de vivre ces moments avec force et intensité. C'est ce que nous expliquent nos invités. Alors justement, qu'est-ce que représente pour vous cette semaine qui commémore le cœur de la foi chrétienne? Comment est-ce que vous vous préparez à vivre ce triduum pascal? Est-ce qu'il y a des rites, des traditions qui sont importantes pour vous? Appelez-nous au 04 72 38 20 23 pour témoigner. Vous pouvez également laisser vos messages à l'adresse directatercf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis. Nos invités pour parler du sens de la Semaine Sainte, frère Philippe Verdun, vous êtes dominicain. Bernard Berthaud, vous êtes historien spécialiste d'art liturgique, et puis père Maximilien de la Martinière, vous êtes curé de paroisse et auteur du livre La piété populaire, une chance pour l'évangélisation, c'est aux éditions Mediapol. Alors on va revenir dans un instant sur le triduum pascal, mais qu'est-ce qui se passe pendant les trois jours qui précèdent, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, entre ce dimanche des rameaux dont on vient de parler et le dernier repas du Christ, frère Philippe Verdun, c'est moins important et en même temps il se passe des choses.
Surtout, c'est la place centrale de la lecture et la méditation de la parole de Dieu, puisque les textes que nous entendons dans la liturgie quotidienne, pour ceux qui vont à la messe tous les jours ou qui peuvent lire dans leur missel ou sur internet les textes que la liturgie nous propose pour ces effectivement trois jours qui sont le début de la semaine, sont des textes absolument magnifiques, hein, qui nous racontent, à la fois qui déroulent comment l'engrenage du procès de Jésus, de son arrestation, de sa condamnation est mise en œuvre et semble impossible à arrêter, malgré les initiatives qu'auront pas mal de personnes qui vont essayer d'empêcher que le drame survienne. Je pense au pauvre, maladroitement évidemment, le pauvre Pierre qui va sortir son épée, il y a la femme de Pilate qui va dire ne condamne pas ce juste, mais on sent bien que les choses sont embarquées, que plus rien ne peut arrêter. Alors évidemment, dans le mystère de la foi, plus rien ne peut arrêter parce que c'est le projet de Dieu, hein, manifester aux hommes son amour jusqu'à donner sa vie pour nous. La communion du Seigneur avec nous, qui se manifeste par l'incarnation du Christ, c'est par donc il est né comme nous, il est né avec nous, il vit avec nous, et il a éprouvé aussi comme nous l'angoisse, la peur, la souffrance physique, la trahison, et puis finalement la mort dans des souffrances effrayantes. Alors donc ces trois jours, ils sont un peu des jours préparatoires avec de magnifiques textes liturgiques à méditer.
Vous parliez de Lazare, hein, c'est le texte du jour. Le mardi, c'est la trahison de Judas, c'est ça. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le message pour les fidèles?
Alors on voit bien que le message pour les fidèles, vous savez, c'est notre message pour notre vie chrétienne, pour notre vie, j'allais presque dire notre vie humaine, hein, de chaque jour, hein, choisis la vie, hein, les moments où en fait on est mis face à la responsabilité de chacun de nos actes, hein, Judas qui ne comprend pas, Judas qui est tenté, bah enfin les tentations c'est toujours les mêmes, hein, ça fait des millénaires que c'est comme ça, le pouvoir, l'argent, le sexe, tout ça, ça se tient, et est-ce que à un moment je choisis l'amour, est-ce que je choisis la vie? Judas, il connaît le Christ, il comprend pas tout, mais les autres non plus, hein, les autres apôtres non plus, ils comprennent pas tout. Il y a plein de passages de l'évangile qui nous disent ils comprirent seulement après que le Christ fut ressuscité qu'il avait pas, que ce qu'il disait c'était la révélation de sa manifestation, de ce que Dieu voulait nous manifester, nous faire comprendre. Mais nous on comprenait rien quand le Christ dit détruisez ce temple en trois jours et moi je le relèverai. Bah évidemment ils peuvent pas comprendre, les braves gars, que les braves pêcheurs, que en fait Jésus parle des trois jours de sa mort, de son séjour dans la mort, et puis son relèvement, sa résurrection, hein, sa métamorphose, hein, comme dit saint Paul. Donc il y a ces choix qu'il faut poser. On sent que à la fois l'histoire s'accélère et en même temps chacun s'enferme dans ses rôles, et c'est pathétique, hein, c'est pathétique. C'est vrai que il va falloir la résurrection du Christ pour casser le moule, hein, pour casser le moule où ben Pilate, ben il est là pour en fait appliquer la loi un peu bêtement, les complots et même les amis du Christ qui sont ramollis, qui sont, il faut que le Christ leur dise tout, il faut préparer la Pâque, allez remuez-vous, il faut trouver une salle, patati patata, voilà, avoir su. Il y a une espèce d'ankylose de la foi. Vous voyez, c'est le péché, en fait, hein, notre pauvre petit péché, hein, tout ce qui obscurcit notre vie, qui la rend un peu grise et morne et qui fait qu'on trahit nos rêves.
Père Maximilien, frère Philippe Verdun le décrit bien, le péché, les faiblesses de l'homme, de la trahison de Judas, Pierre qui renie trois fois Jésus, la lâcheté de Pilate. Finalement, c'est pour ça aussi que on se sent proche de tout ça, c'est qu'on comprend finalement, on est touché par ces faiblesses de l'homme.
Bien sûr.
Est-ce que c'est pour ça que ça rend cette période aussi, on va dire pas populaire, mais qui s'y incarnait pour chacun des fidèles?
En tout cas, le jour le plus marquant pour la piété populaire, en tout cas dans la Semaine Sainte, c'est le Vendredi Saint. Je ne voudrais pas avancer trop vite parce qu'il nous reste encore à parler du Jeudi Saint, hein, mais effectivement, c'est autour du chemin de croix que toutes ces thématiques que on vient d'évoquer, hein, de la trahison, de la souffrance, du péché, s'incarne très concrètement pour l'exercice de la piété populaire.
Alors, on va parler justement du Jeudi Saint, qui est la fête de l'Eucharistie, la fête des prêtres aussi. On y fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il y a beaucoup de gestes liturgiques importants, frère Philippe Verdun, au cours de ce jour-là, de ce premier jour du Triduum Pascal.
Alors, et puis, oui. Alors, les jours sont bien remplis parce que dans beaucoup de diocèses, je pense l'écrasante majorité des diocèses de France, on célèbre aussi le mercredi soir la messe chrismale. Donc, l'évêque qui réunit les prêtres et le peuple de Dieu pour une célébration dans laquelle on consacre, on bénit les huiles saintes qui serviront pour les baptêmes, pour les confirmations. C'est un temps assez fort pour la vie diocésaine. Mais c'est vrai que c'est un temps qui rejoint moins la piété générale hein, du peuple de Dieu. Alors évidemment, le jeudi saint, là aussi, a un geste incroyable. Hein, donc l'évangile selon saint Jean, qui ne raconte pas la même histoire, en fait. Il la complète par rapport aux trois autres évangiles. Le dernier repas que le Christ prend avec ses disciples, qui va fonder la messe, eh bien, Jean passe très vite sur le partage du pain et tout ça, pour parler d'un geste complètement singulier que Jésus fait. Il va se mettre à genoux, il va mettre un manteau, un tablier de service, hein, et il va laver les pieds de ses disciples. Donc c'est extrêmement choquant, c'est cette parole inouïe, incroyable, d'un Dieu qui se fait serviteur de l'homme. Hein, qui lave les pieds en signe à la fois signe très fort de communion, parce que vous savez, c'est pour ça aussi que Marie-Madeleine elle veut tout le temps tripoter les pieds de Jésus. Hein. Il y a une forme de communion très forte quand on touche, quand on fait des câlins hein, aux pieds. Évidemment, on est dans une intimité extrêmement forte. Là, Jésus, c'est un geste qui est liturgique. Il va laver les pieds de ses disciples. Nous, dans la tradition dominicaine, les pieds ouais, de ses 12 apôtres, dans la tradition dominicaine, on embrasse même le prieur.
On en reparle dans un instant de ce geste très important, le lavement des pieds. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Pauline de Torsiac.
Et on fait une petite pause musicale avec la Passion selon saint Matthieu. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis.
une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et cette semaine, on est entré dans la Semaine Sainte, on en parle avec nos invités. Qu'est-ce que cela représente pour les chrétiens, cette semaine qui mène à Pâques, fête majeure du calendrier liturgique? Pour en parler, frère Philippe Verdun, dominicain, Bernard Berthaud, historien, et père Maximilien de la Martinière, curé de paroisse, auteur du livre « La piété populaire, une chance pour l'évangélisation » aux éditions Médiapôle. On était en train de parler de cette première étape du Triduum Pascal et de ce geste important, le lavement des pieds. Bernard Berthaud, ce rite liturgique, il existe depuis le début, depuis le départ?
Ah oui, pratiquement. D'ailleurs, ce geste, d'abord un geste antique. On se lave les pieds avant de passer à table, si on peut dire. Mais c'est un geste qui était réalisé par les esclaves. Et c'est ça qui choque évidemment les disciples et les apôtres. C'est que le Christ, Jésus, va faire ce geste d'esclave. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'ensuite, les responsables des communautés chrétiennes, les premiers évêques, et surtout l'évêque de Rome, mais aussi les évêques d'Italie, vont perpétuer ce geste d'humiliation. Le responsable de la communauté, l'évêque, va laver les pieds à 12 pauvres qu'on va chercher. C'était facile de trouver des pauvres, c'est toujours facile d'ailleurs. On va trouver 12 pauvres ou 12 malades dans la ville et on va laver leurs pieds. Donc à Rome, ça s'est fait et ça s'est toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Les papes à toutes les époques l'ont fait. Et également, on le faisait non seulement pour le Jeudi Saint, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on le faisait aussi pour les pèlerins qui venaient à Rome. Pour les années saintes, il y avait des confréries à Rome qui lavaient les pieds des pèlerins. Et par exemple, à la confrérie de la Très Sainte Trinité des pèlerins, non seulement les confrères venaient laver les pieds des pèlerins, mais le pape lui-même, les cardinaux, les princes romains. Donc c'était quelque chose d'extrêmement intégré dans la vie chrétienne.
Un geste intégré dans la vie chrétienne, père Maximilien. Ce lavement des pieds... purification, c'est un geste d'humilité. Les fidèles en ont besoin de ce geste, de ce rite, pour vivre le cœur de leur foi, toujours dans cet esprit.
En tout cas, ils sont très touchés lorsque on leur propose, je peux en témoigner dans ma paroisse, puisqu'on est en train d'appeler les uns et les autres, de vivre ce geste pendant la liturgie du Jeudi Saint. Puisqu'évidemment, le prêtre va laver 12 pieds pendant la messe du Jeudi Saint, et il y a quand même plus que 12 paroissiens à la messe, Dieu soit loué. Donc il n'y en a que 12 parmi ceux-là, et à chaque fois, nous, en tout cas nous dans notre paroisse, on prend soin de bien réfléchir à telle ou telle personne à qui on peut proposer de vivre ce lavement des pieds, par rapport à ce que la personne vit en ce moment dans sa propre existence, dans son chemin de foi, et les gens sont très touchés d'être invités à vivre ce geste. Notre particularité, c'est que nous laissons les gens, les 12, au milieu de l'assemblée. Donc ils ne sont pas en théâtre, si vous voulez, dans le cœur, mais le prêtre va au milieu de l'assemblée et va laver les pieds des 12 qui sont là, comme les autres. Un peu le symbole que chacun pourrait être celui vers qui le prêtre, qui représente le Christ à ce moment-là, se penche pour se mettre à son service.
Alors on a une auditrice en ligne, Jacqueline, vous appelez du Vaucluse. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour à tous.
Alors on vous écoute.
Je me posais la question, il y a l'âne qui revient par deux fois dans l'écriture pour Marie lorsqu'elle va à Bethléem et pour Jésus lorsqu'il rentre à Jérusalem. Et il me semblait que ce qui nous était demandé certainement, peut-être en premier, c'était de maîtriser justement cet animal qui est en nous. Parce que pourquoi un âne? Pourquoi Marie sur un âne? Pourquoi Jésus sur un âne? Donc, est-ce qu'il nous est demandé d'abord personnellement de maîtriser des comportements ou des... Enfin, voilà.
C'est une manière d'interpréter. Merci beaucoup, Jacqueline, de votre témoignage. Père Maximilien, qu'est-ce que on peut répondre justement à Jacqueline sur cette interpellation de l'âne?
La première chose qu'on peut répondre, c'est que ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est ouverte à notre interprétation. Honnêtement, j'avais jamais pensé à celle-ci, que nous serions invités à maîtriser le comportement, aux instincts animaux, enfin, ça me paraît évident. Mais il y a plein d'autres façons. L'animal, c'est aussi, l'âne, c'est aussi l'animal de compagnie. Il fait partie de la vie, de la famille. Il est là et c'est celui qu'on utilise à chaque fois qu'on bouge. Donc il y a, et c'est plutôt vu comme une forme d'humilité, hein, de voir Marie, puis Jésus utiliser un âne. Que j'ai pas l'impression que l'animal de l'âne soit un animal particulièrement violent qu'il fasse. Il y a d'autres animaux dans la Bible qui signifient un peu cette violence à maîtriser.
Voilà la réponse du père Maximilien. Alors, on a une autre auditrice que l'on va prendre tout de suite. Anne, vous habitez Montaigu en Vendée. Bonjour Anne.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Anne, bonjour. Allez-y, on vous écoute.
Ah, écoutez, alors je voulais juste faire un petit témoignage.
J'avais un souvenir d'enfance.
Voilà, un souvenir d'enfance, enfin d'adolescence, même de jeunesse. Mon frère aîné est rentré à l'abbaye, j'avais 12 ans. Et donc je passais mes vacances, notamment de Pâques, le Triduum Pascal dans cette abbaye. Et voilà, et c'est un souvenir extrêmement puissant. L'office des ténèbres, l'absence totale de... Puisque, comme on sait, les cloches s'en vont et donc il n'y a plus aucun bruit dans le grand silence monastique. Et les crécelles même qui indiquaient le début de l'heure des ténèbres, de l'office des ténèbres, avec le chandelier, les lamentations de Jérémie, tout ça, ce rituel en grégorien, bien sûr, tout en latin. Et également la joie du rétorexie au matin de Pâques. Enfin bon, ce sont des souvenirs extrêmement puissants. Alors maintenant, j'ai beaucoup de recul. Et à la fois, si j'appelle, c'est pour dire que ce sont des choses qui m'ont énormément marqué, qui sont magnifiques, qui soulignent la dramaturgie, si vous voulez, qui sont une dramaturgie réelle de ce triduum. Et en même temps, je rejoins beaucoup ce que disait le père Raphaël Buise l'an dernier sur une autre antenne que la vôtre, mais qui faisait cette méditation en disant « Mais il faut bien se souvenir que le Christ, avant de mourir, il a d'abord été un vivant. » Et donc, ça, c'est très important. Et je pense que ce qui est important, à mes yeux, c'est que le rituel est magnifique, mais il ne doit pas nous faire oublier la personne du Christ et l'actualité des douleurs du Christ qui, dans le monde actuel notamment, doivent nous rendre l'accessibilité au divin. Le divin, le sacré, c'est magnifique, je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, Dieu est infiniment proche, il est infiniment simple. Effectivement, les gestes qu'il a faits, le lavement des pieds, le rabouni du matin de Pâques, ce sont des choses extrêmement simples, extrêmement dépouillées, vous voyez.
Merci beaucoup Anne de votre témoignage, de tous ces souvenirs et effectivement de se rappeler aussi du sens profond de tous ces gestes et symboles. Père Maximilien.
Justement, vous me donnez envie de parler du chemin de croix, mais je voudrais pas anticiper.
On va en parler. C'est la bonne transition pour en parler, justement.
C'est la bonne transition.
Donc, mais peut-être une petite réaction à ce que vient de dire Anne. C'est vrai que tous ces rites sont importants et en même temps, c'est aussi le cœur de la foi chrétienne. Il faut pas l'oublier.
En tout cas, c'est là que la piété populaire a vraiment trouvé son expression. Si elle se déploie énormément au Moyen-Âge, la piété populaire, mais déjà même avant, quand on cherche un peu, c'est parce que le rite est en latin. Hein. Et donc, évidemment, c'est beau, c'est impressionnant, c'est touchant, c'est sacré, mais on comprend rien. Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut entrer dans le mystère de ce qui se joue de la mort et de la résurrection du Christ quand on se contente de voir quelque chose de sacré, de merveilleux et de beau, mais dont on ne sait pas de quoi ça parle? Et donc, le chemin de croix en particulier va permettre au peuple chrétien de vivre et de comprendre ce qu'il vit en marchant sur les pas du Christ. Et c'était une merveilleuse invention à cette époque-là.
On va en reparler justement de tout ce que représentent ces chemins de croix, mais on va parler d'abord du Vendredi Saint, du sens de ce jour si particulier. Jésus est amené devant Ponce Pilate, il est condamné à mort. Frère Philippe Verdun, ce jour particulier du Vendredi Saint, que signifie-t-il pour les chrétiens ?
Alors c'est vrai que normalement, votre auditrice qui est intervenue a dit quelque chose de très, très important, c'est que la Semaine Sainte est surtout marquée par une joie immense, dont on a les prémices le dimanche des Rameaux, qu'on a le Jeudi Saint, hein, puisque c'est une espèce de joie grave. Hein, le Christ dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». Donc il y a une forme de communion très forte, un peu la joie grave qu'on voit aussi dans le film Des Hommes et des Dieux avec les moines qui partagent un camembert et un bon vin en silence, mais il y a quelque chose de joie grave. Et puis après, donc on arrive là au Vendredi Saint où là on touche un peu quand même le fond, mais tous ces moments sont des moments de grande communion. Hein. Nous, dans les églises où on peut le faire, après le chemin de croix, on invite aussi les fidèles, nous en tout cas dans la vie religieuse et monastique où on le fait, à vénérer la croix du Christ. Donc les fidèles viennent en procession embrasser ou s'incliner devant la croix du Christ au cours d'une célébration qui a lieu le vendredi soir. Et ça aussi, c'est un moment extrêmement bouleversant de communion individuelle et aussi communautaire à la souffrance du Christ, mais comme promesse de vie, hein. C'est, faut jamais oublier évidemment que la croix, c'est l'arbre de vie. C'est pour ça aussi que les rameaux dont on a parlé au début de notre émission sont en buis. C'est parce que ça reste vert très longtemps. Donc il y a la vie en surabondance qui est promise. Si le grain ne meurt et tombe en terre, il porte beaucoup de fruits. Il faut passer par la mort. Alors pour individuellement pour nous. Ça veut dire aussi renoncer, que le vieil homme, hein, avec ses vieilles habitudes racornies, puisse ressusciter, revivre, hein, avoir encore une nouvelle chance. On nous donne chaque année une nouvelle chance pour devenir des saints et des saintes.
Les fidèles, frère Philippe Verdun, sont invités à revivre la passion du Christ en faisant un chemin de croix. Bernard Berthaud, de quand datent ces chemins de croix? Voilà, c'est aussi ancré dans le temps, mais ça n'a pas été toujours sous la même forme.
Absolument, oui. On peut dire que le chemin de croix est né à partir du moment où le Christ est mort et ressuscité. C'est-à-dire que les premiers témoins, puis ensuite les premiers pèlerins de Jérusalem se sont attachés à retrouver dans Jérusalem même les lieux par lesquels serait ou est passé le Christ. C'est la fameuse Via Dolorosa. Hein. Et puis dès que la basilique, dès que l'église du Saint-Sépulcre a été construite, donc sous l'empereur Constantin, les pèlerins et les fidèles de Jérusalem vont cheminer dans la basilique, hein, où il y a effectivement un certain nombre de points qui rappellent la Via Dolorosa, la souffrance du Christ. Hein. Et évidemment, cela, ça va se continuer pendant tout le premier millénaire. Hein. Et puis, avec l'échec des croisades, l'échec des royaumes latins de Jérusalem, là, après la chute de Saint Jean d'Acre, en fait, à la fin du XIIIe siècle, eh bien, on va vouloir continuer cet effort, et cet effort va être poursuivi mentalement, en quelque sorte. Et c'est là où interviennent des grands penseurs, des grands mystiques, hein, comme le frère dominicain, justement, Henri Souzeau, hein, qui va dire, mais on n'est pas obligé d'aller à Jérusalem pour participer aux souffrances du Christ pendant son chemin de croix, pendant ce chemin qui va le mener de la nuit du Jeudi Saint à la mort sur la croix, puis ensuite la résurrection. Donc là, on
trouve de nouvelles représentations.
Et alors, Henri Souzeau, donc lui qui meurt au milieu du XIVe siècle, n'encourage pas les reproductions. C'est un peu plus tard, hein, et encore par un dominicain, Alvar de Cordoue, qui va représenter ces lieux justement pour que les fidèles soient marqués. Là. Alors on a des images, entre autres de l'église du Saint-Sépulcre, du calvaire et ainsi de suite, et donc on va représenter cela par des petites chapelles. Chez les Clarisses aussi, chez les deux grandes familles de frères mendiants, si vous voulez, les dominicains et les franciscains vont, qui sont des gens qui sont proches du peuple. Hein, vous savez que les frères prêcheurs n'ont pas voulu s'enfermer dans des monastères, dans des couvents, mais ils veulent être avec le monde, hein, et ces prêcheurs ou ces mineurs vont mettre en forme, hein, comme François d'Assise avait mis en forme la nativité, si vous voulez. Par exemple, la Clarisse Eutocius de Messine va faire des petits monuments dans Messine, hein, et ceci va être repris En Europe, il y a les fameux sacrimonti de l'Italie du Nord, des Alpes italiennes, puis du Tyrol, et puis même en France. Hein. Et à côté de Lyon, vous avez le fameux grand calvaire de Romans-sur-Isère. Hein. Là, on est au XVIe siècle, hein, ce qu'on appelait le Grand Voyage, où il y a 40 stations. Et on invite les prêcheurs, alors c'est un lieu qui est tenu par les Capucins, hein, donc des franciscains réformés, comme vous le savez, et là, les gens qui viennent là, ils viennent se replonger dans l'histoire sainte, dans l'Évangile, hein, si vous voulez.
Et les 14 stations, alors c'est récent ?
Alors petit à petit, alors il y a eu énormément de mystiques ou de penseurs qui ont réfléchi à cela. Et pour que là aussi ça soit beaucoup plus simple pour le tout venant, pour le simple fidèle, petit à petit on va s'arrêter sur 14 événements. Et cela, on est au début du XVIIIe siècle, et le pape Benoît XIV, qui était très intéressé par cette piété du peuple, hein, des fidèles, va arrêter, pendant son pontificat, on est en 1742, va arrêter les 14 stations. Et puis, il va avoir un adjuvant formidable, hein, qui va faire passer ce goût de la Via Crucis depuis les monastères, les couvents, aux paroisses. Hein. Et c'est Léonard de Port-Maurice. Léonard de Port-Maurice va travailler toute sa vie à faire connaître ce chemin de croix. Et petit à petit, ces chemins de croix vont s'installer dans les paroisses.
Père Maximilien de la Martinière, on le voit, hein, ce chemin de croix est ancré dans l'histoire. C'est important aussi pour les fidèles de revivre les 14 stations, les étapes de la passion du Christ. Pourquoi c'est important ? Qu'est-ce que cela signifie ?
De même que le rosaire permet de prier avec Marie, le chemin de croix permet de cheminer avec Jésus. Et tout comme la crèche, le chemin de croix parle particulièrement au cœur parce qu'il fait appel à un langage imagé. On peut voir les personnages de la crèche, on imagine, on se représente les scènes du chemin de croix. Et puis tout ça fait référence à des moments fondamentaux de la vie, comme la naissance, la souffrance et la mort. Évidemment, ce n'est pas des choses secondaires pour nous. Puis ça fait aussi vibrer la corde sensible, celle de l'enfant pauvre rejeté, celle de l'innocent humilié et condamné à mort. Tous ces rites de la piété populaire sont très prisés parce qu'ils nous rejoignent vraiment très concrètement et puis aussi parce qu'ils nous impliquent dans le rite. En méditant le chemin de croix, nous nous souvenons que la souffrance et la mort font partie de nos vies, mais qu'elles sont illuminées par la croix du Christ. Et puis le chemin de croix nous fait bouger. On marche, on s'agenouille, on embrasse, on prie, on chante, on fait silence. Nous sommes vraiment acteurs. Souvent dans la liturgie, on est un peu passif, en tout cas, on l'a été à un certain moment de l'histoire de l'Église, et là, on est vraiment acteur. D'un seul coup, tout ce qui était encore théorique dans ce qui se joue dans ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ devient concret. Je le vis moi-même en cheminant avec le Christ.
Alors, il y a une autre chose que vivent les fidèles aussi, c'est qu'ils jeûnent le Vendredi Saint, Père Maximilien.
Oui, exactement. Il y a cette idée de l'effort qui est associé au jeûne. Et puis, il y a cette idée, en fait, on a le sentiment que finalement, on serait hypocrite de cheminer avec le Christ un peu spirituellement et physiquement en marchant si on ne s'associait pas à sa souffrance. Il marche, il tombe, il souffre, il pleure, et moi, je serais tranquillement en train de boire mon petit whisky tout en regardant ou en participant au chemin de croix, ça colle pas. En fait, il y a quelque chose qui est ajusté dans toutes les dimensions de l'être. Il faut que le corps rejoigne l'esprit, et le jeûne le permet.
Le jeûne le permet. Il n'y a pas d'Eucharistie aussi ce jour-là, hein. Père Maximilien. En tout cas, les hosties ont été consacrées la veille. C'est important de le dire aussi.
Oui, parce que dans l'Eucharistie, en fait, la mort et la résurrection du Christ, les deux en même temps. À chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, c'est vraiment la mort et la résurrection du Christ en même temps. Or, Vendredi Saint, c'est juste la mort. Donc, on ne peut pas célébrer la mort et la résurrection alors qu'on est le jour où on ne fait mémoire que de la mort. On attend la résurrection. Donc, effectivement, pour le bien des fidèles, les hosties ont été consacrées la veille et on peut communier pour rester dans cette communion profonde avec le Christ, mais on attendra la nuit de Pâques, vous allez peut-être y venir.
Pour, vous allez trop vite, hein, Maximilien.
Je vais trop vite pour évoquer la mort et la résurrection.
Non, mais justement, on va parler du samedi saint, hein, un jour d'attente, un jour blanc, en quelque sorte. Comment on pourrait le décrire ce jour-là, frère Philippe Verdun?
Ouais, le grand silence. Hein, on rentre chacun un peu dans au fond de son cœur. Le grand drame, hein, de la passion du Christ, c'est que le Christ s'est retrouvé abandonné, seul. Alors on fait un chemin de croix pour non pas porter la croix à la place de Jésus, évidemment, hein, y a qu'un médiateur, mais pour être avec lui, parce que tout le monde crie, tout le monde lui jette des trognons de choux, il se fait fouetter, tout ça, et nous on peut pas faire grand chose, on n'était pas là ce jour-là, mais on veut être à ses côtés, et puis là, ben voilà, il est mort. Il y a quelque chose, le temps est suspendu. Il n'est pas vide au sens qu'il serait creux, mais il y a une sorte de béance, une sorte d'ouverture, hein. C'est le temps où le Christ va visiter les captifs de la mort, où il va chercher dans la tradition byzantine Adam par la main. Il l'appelle Adam, où es-tu, hein? Et Adam qui attend depuis des millénaires cette communion renouvelée avec Dieu qu'il avait trahi dans le jardin d'Éden, tout est renoué, mais ça se joue dans le silence, dans la discrétion. Donc c'est un temps suspendu
qui va précéder la vigile pascale où on va célébrer la résurrection du Christ. Père Maximilien, quelle est la différence finalement entre cette vigile et le jour de Pâques?
La vigile nous met au plus proche de l'événement. Donc effectivement, on est dans la liturgie, c'est dans, en tout cas le matin de Pâques, le tombeau est vide. Donc la résurrection a eu lieu, s'il fallait chercher un horaire précis, dans la nuit. Donc traditionnellement, on va fêter la vigile pascale, la résurrection dans la nuit. Et puis il y a un grand symbole qui est d'ailleurs très marquant aussi pour la piété populaire, c'est le symbole de la lumière.
Le cierge pascal.
Le cierge pascal, le feu pascal mis dehors, on rentre dans la nuit et peu à peu les lumières s'allument dans l'église. C'est très parlant, la vigile pascal pour tous les sens qui sont partie prenante de la liturgie. Et donc évidemment, si en plein jour on essaie de faire un rite de la lumière, c'est quand même moins parlant. Donc ça aide de pouvoir le faire pendant la nuit. Et puis la nuit, c'est un peu le symbole de la mort, et la lumière va venir, la résurrection va venir. Dans le temps, la vigile pascal se passait toute la nuit, et c'est vraiment on allait jusqu'au moment du lever du soleil pour que le soleil vienne illuminer celui de la résurrection.
Bernard Berthaud.
Oui, c'est d'ailleurs nos frères d'Orient, les orthodoxes et les églises byzantines font toujours cela. Mais ce qui est très intéressant dans le cierge pascal, justement, et ça là où on rejoint la piété, c'est que au Moyen-Âge, les fidèles veulent s'approprier cette cire qui illumine le monde et qui illumine leur vie. Et cette cire du cierge pascal va devenir, on va faire ces fameux Agnus Dei, hein, que le pape va distribuer, va bénir le mercredi après Pâques, hein. Donc on prend une partie du cierge pascal ou des cierges des grandes basiliques romaines pour faire ces petites médailles en cire qu'on appelle des Agnus Dei. Et là aussi, les pèlerins de Rome, les habitants de Rome vont être friands de ce petit objet qui est censé les protéger aussi, hein, mais qui les associe en fait vraiment avec le moment de la résurrection.
C'est important, vous avez parlé du symbole de la lumière, il y a les cloches et l'alléluia aussi, Père Maximilien, on retrouve, c'est la fête quoi.
Le frère Philippe a évoqué effectivement le grand silence du samedi saint, l'attente, et les cloches vont sonner au moment du Gloria pendant la vigile pascale pour donner le ton, voilà, l'espérance qui habitait le cœur des chrétiens, que la vie, cette espérance profonde qui habite nos cœurs, que la vie est plus forte que la mort, on le sent bien, mais évidemment on n'en a aucune preuve, c'est de l'ordre de la foi. Il y a quelque chose qui nous est révélé dans la résurrection du Christ, qui fonde notre espérance, alors évidemment la joie explose dans la vigile pascale.
La joie explose dans la vigile pascale, c'est aussi l'occasion, hein, il faut quand même le préciser aussi, c'est là où on célèbre les baptêmes des catéchumènes. Pourquoi c'est important de le faire à Pâques, frère Philippe Verdun?
Parce que c'est la vie en surabondance, encore une fois, hein, qui a jailli du cœur du Christ et qui est manifestée par cette espèce de puissance incroyable. Hein. Dieu est tellement fort que de la mort, il peut donner la vie. Et c'est aussi donc promesse de vie éternelle pour chacun des participants à la vigile pascale, et d'ailleurs même pas que les participants de la vigile pascale, pour tous les hommes, hein, puisque nous célébrons pour tout le monde, pour tous les hommes et pour notre salut, hein, nous célébrons pour tous. Et cette force de la vie qui fait que qu'est-ce que c'est qu'un catéchumène? C'est quelqu'un qui entre dans la vie nouvelle et qui reçoit en héritage, ça fait partie de tous les dons qu'on reçoit au moment du baptême, la promesse de la vie éternelle dont le signe a été la résurrection du Christ. Le Christ nous ouvre la porte du tombeau, hein, de nos tombeaux, cette promesse. C'est pour ça que cette nuit de Pâques, elle est dans une espèce de fraîcheur, de renouvellement, tout ce qui est vieux, tout ce qui est usé. C'est pour ça aussi qu'on lave l'autel le Vendredi Saint pour enlever toutes les impuretés, voilà, tout ce qui est poussière, voilà, tout ce qui est voué à la mort. Non, notre vie, malgré notre péché, rien n'est voué à la poussière, à la mort. Nous sommes promis à la vie éternelle en s'accrochant au manteau du Christ. Hop, il va nous entraîner en cassant la pierre du tombeau.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir éclairé justement sur le sens de cette semaine sainte, toutes ces étapes que nous avons évoquées pendant l'émission. Frère Philippe Verdun, merci beaucoup d'être venu nous éclairer. Bernard Berthaud aussi, merci bien d'être venu nous faire revivre ça dans l'histoire. Et puis Père Maximilien de la Martinière, j'envoie les auditeurs à votre livre « La piété populaire, une chance pour l'évangélisation ». C'est aux éditions Mediapol. Merci beaucoup.